Eh bien, bonjour à tous. Alors, bonne année à tout le monde, parce que j'étais pas là la semaine dernière. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et merci Guy de nous avoir amenés dans cette réflexion ce matin. Tu nous as encouragés avec les versets de Philippiens 3, qui comparent la vie chrétienne, en fait, à une course. Et on va continuer un peu dans cette thématique, si vous le voulez bien, ce matin. Mais on va prier avant tout. Seigneur notre Dieu, c'est dans ton nom qu'on est tous réunis ce matin. C'est toi qui es le centre de toute chose, qui es le commencement et la fin. Et c'est à toi que nous devons notre origine, notre salut, notre espérance, notre destinée éternelle. Seigneur, veuille bénir maintenant ta parole. Veuille la faire éclater de joie, que nous puissions vraiment comprendre tout ce qu'il y a dedans, cette richesse que tu nous as léguée. Seigneur, c'est un cadeau que tu as fait à l'humanité de te révéler. Toi, le Dieu Tout-Puissant, et Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre cette parole. Donne-moi aussi la sagesse de ne pas dire un mot de trop, de parler vraiment de ta part, Seigneur, pour que mes frères et sœurs, ce matin et moi-même, nous soyons encouragés, éclairés, stimulés à toujours plus te louer, toujours plus te servir. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, donc vie chrétienne est une course, et si on pousse la comparaison, ça serait plutôt de l'ordre, plutôt que du sprint, c'est plutôt de l'ordre du marathon, vous êtes d'accord ? À la seule différence par rapport au marathon olympique, c'est qu'on ne parle pas de performance, et la longueur diffère pour chacun. Un marathon, c'est 42, quelque chose, mais pour chacun, le marathon a une longueur différente, qui est fixé par Dieu, mais qu'on ne connaît pas. Voilà. Et il n'est plus question là de performance, hein, courir sans s'arrêter, faire moins de 2 heures, mais c'est une question de ligne d'arrivée. Et avec ces nouveaux objectifs que Dieu nous fixe par rapport à la course chrétienne, il est important d'avoir un bon rythme et savoir faire des stops, hein, puisque ce n'est plus une question de performance, mais de ligne d'arrivée. Il faut savoir faire dans la vie des stops. Et je pense qu'une transition d'année, une transition professionnelle, une transition de décennie, c'est une occasion de s'arrêter et de faire des stops. D'ailleurs, Dieu, dans sa sagesse, lorsqu'il a formé son peuple d'Israël, leur a donné des stops, hein, sous la forme de fêtes. C'est des moments où ils arrêtaient le travail, il y avait le sabbat, il y avait toutes ces fêtes lévitiques, hein, dont 3 fêtes principales, bien sûr, où ils se réunissaient tous à Jérusalem. Et pourquoi Dieu avait fait ça ? Parce qu'il savait dans sa sagesse que la course est longue, que la vie est difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, là ? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord que la vie est dure ? Personne ne lève la main ? Ben, moi non plus. Donc la vie est dure. Mais heureusement, dans la parole, nous avons des passages qui nous aident à surmonter la dureté de la vie. Et j'ai choisi ce matin un psaume ultra connu, c'est le plus vieux des psaumes, qui nous donne le point de vue réaliste d'un homme qui sait de quoi il parle. L'auteur de ce psaume sait de quoi il parle parce qu'il a vécu le fait que la vie était dure. Et on va voir comment un homme très âgé, il est probablement très âgé lorsqu'il rédige ce psaume, un homme qui a quasiment achevé sa course, qui a quasiment aussi accompli sa mission, donc un homme qui est légitime pour nous enseigner. Vous savez, aujourd'hui, on vit à l'ère du jeunisme et du dégagisme. Hein ? Tout sera jeuni aujourd'hui. On n'a jamais eu des premiers ministres aussi jeunes, même si là on en a un peu plus vieux. Mais en politique, c'est très jeune. Même dans les églises chrétiennes, c'est très jeune. Les groupes d'anciens sont très jeunes. Et parfois, voilà, il faut la force de la jeunesse, hein, comme il était écrit ce matin dans le verset. Il faut la force de la jeunesse et parfois la sagesse. Hein, c'était dans la lecture du jour, la lecture du proverbe, pour ceux qui ont lu, la force de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse a bien mélangé, bien mixé tout ça. Cet homme, vous le connaissez, on va en dire 2 mots tout à l'heure, et on verra que ce psaume, finalement, va nous donner, je ne vais pas dire 6 recettes du bonheur, mais va nous amener à faire 6 requêtes au Seigneur, donc va nous rendre actifs. Vous savez, les recettes du bonheur, les recettes à 2 balles qu'on trouve sur Internet, fais ci, fais ça, vous voyez, ça ne va pas loin en général. Mais quand c'est la parole de Dieu, on va voir aujourd'hui 6 requêtes que nous pouvons chacun faire au Seigneur en ce début d'année, qui sont des requêtes un peu inhabituelles. Vous savez, quand on fait une réunion de prière, je caricature, mais on a un peu notre liste de courses, quoi. Seigneur, bénis la tante Sarah qui a un problème au poumon, bénis un tel qui va passer ses examens. Vous voyez, on a notre liste de courses et ce n'est pas interdit. Dieu nous dit qu'il faut amener des requêtes et des intercessions. Mais de temps en temps, et quand on lit l'apôtre Paul, quand il prie pour les chrétiens, il demande des choses un peu inhabituelles. Par exemple, il va prier pour les Philippiens et il va leur demander « Je prie pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité afin que vous sachiez discerner ce qui est important. » Je vous cite de mémoire Philippiens 1, verset 8 ou 9. Vous voyez, donc parfois, savoir demander, et ça c'est des idées pour les réunions de prière, là, cette semaine c'est dans les quartiers, voilà, demander parfois des choses inhabituelles à Dieu et Dieu va honorer tout ça. Alors, la télécommande, elle est là, on va avancer. Alors, ce psaume, bien entendu, c'est le psaume 90, je vous invite à l'ouvrir parce qu'on va le lire en entier, je ne l'ai pas affiché, comme ça nous amène aussi à prendre nos Bibles. Alors, en fonction des versions que vous avez, moi je suis fidèle à ma vieille version Colombe, là, depuis 30 et quelques années, je la connais tellement bien que j'ai du mal à passer aux autres. Mais, bon, je lis quand même la Nouvelle Français Courant, le Summer, mais j'aime bien ma Colombe parce que, bon, voilà. Psaume 90, donc prière de Moïse, c'est lui l'auteur de ce psaume, c'est le seul psaume qu'il a écrit d'ailleurs. Homme de Dieu, alors c'est, oui, bien sûr c'est un homme proche de Dieu, mais homme de Dieu ça veut dire prophète en gros, donc Moïse était un prophète. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Cela passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous tous, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Alors un psaume donc de Moïse, c'est un peu inhabituel, on pense souvent au psaume de David. Alors où en est Moïse au stade où il écrit? Alors ce n'est pas Moïse, rassurez-vous, ce n'est pas le vrai, vous connaissez... Cette image extraite du biopic de Cécile B. 2000, qui date un peu déjà, je n'étais même pas né. Vous voyez, donc. Alors Moïse, il a eu 3 stades dans sa vie. C'est important de comprendre où est-ce qu'il en est quand il écrit ça. Premier stade, vous voyez, il a été prince d'Égypte pendant 40 ans, c'est 3 fois 40. Ensuite, il a été berger dans le désert, il a entendu des bêlements de moutons et des souffles, des buissons qui volaient pendant 40 ans. Et enfin, il a accédé à sa mission de vie, qui est d'être conducteur d'un peuple immensément nombreux et rebelle. Et à chacun de ces stades, Moïse a appris des choses Comme nous, d'ailleurs, on a eu des phases dans notre vie. À chaque phase, on apprend des choses. Alors Moïse, en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appris la sagesse des Égyptiens et l'écriture. Ça tombe bien parce qu'on pense que dans cette époque-là, c'est là où vraiment est née l'écriture. Avant, on écrivait en cunéiforme sur des tablettes. Et l'écriture est vraiment née à ce moment-là. Et il en avait besoin. Pourquoi il en avait besoin ? D'apprendre l'écriture. Pour ? De ? Genre, putain, je suis sourd là, c'est début. Pour écrire le Pentateuch. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Donc Dieu, dans sa sagesse, il envoie Moïse à la cour d'Égypte où naît l'écriture pour apprendre à écrire, pour pouvoir rédiger l'Ancien Testament, la Torah, les 5 livres. Vous voyez comme Dieu dirige les choses, c'est incroyable. Et puis, berger du désert, il a dû apprendre la patience parce que Moïse était un peu impatient. Donc Dieu avait en vue qu'il y avait un peuple rebelle de plusieurs millions de personnes à conduire et que Moïse était impatient. La seule façon, c'est 40 ans au désert. Voilà. Et puis finalement, il a porté du fruit. Il a appris, capitalisé sur sa vie. Voilà ce que c'est que la vie chrétienne. C'est un marathon fait de plusieurs étapes durant lesquelles Dieu nous forme, nous instruit pour nous amener sur une mission qu'on exerce en cours de route. Parce qu'à chaque fois, il a exercé une mission. Dans le désert, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Bon. Alors, Moïse, on considère que c'est l'être humain qui probablement a été le plus en intimité avec le Dieu éternel. Alors, regardez ce qui est écrit dans Deutéronome 34:10. Il ne s'est pas plus levé en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. C'est-à-dire que Moïse voyait Dieu face à face. Il ne voyait pas Jésus-Christ, il voyait Dieu face à face. C'est ce que la Bible nous dit. Souvent, les hommes ont vu l'Éternel, une représentation, qui est une christophanie, Jésus-Christ incarné avant l'heure. Mais Moïse voyait Dieu face à face, c'est ce que nous dit la Bible. Et à tel point il y avait un degré d'intimité, c'est que Dieu a pris soin de l'enterrer personnellement. Dieu n'a pas fait beaucoup de choses comme ça envers les hommes. Il a enlevé Enoch, c'est le seul, avec Élie, mais il a vraiment, Dieu le prit. Grosse intimité entre Dieu et Enoch, grosse intimité entre Dieu et Moïse. Dieu prend soin d'enterrer Moïse. D'accord ? Et donc là, Moïse écrit probablement dans la dernière partie de sa vie. Comment on le sait ? Le verset 15, regardez ce que nous dit le verset 15. Le verset 15 nous dit « Longtemps tu nous as accablés ». Vous voyez, quand on écrit ça, « Longtemps tu nous as accablés », il utilise le « nous », c'est que c'est probablement, on ne sait pas quand, mais à la fin de la sortie d'Égypte. Alors, en préambule, pour bien comprendre ce psaume, pour saisir la portée de ce que Moïse veut nous dire dans ce psaume, j'aimerais que nous lisions un passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 8. Donc prenez Ésaïe 55, 8, parce que il faut avoir une certaine paire de lunettes pour bien comprendre ce psaume. On peut le comprendre d'une certaine manière, à première lecture, mais pour en comprendre la profondeur, pour descendre dans le fond de ce psaume, lisons Ésaïe 55, verset 8. On va faire 8 et 9 d'ailleurs. Verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Voilà, donc pour bien connaître et comprendre ce psaume, il faut savoir qui est Dieu. Et Dieu, c'est quelqu'un d'incompréhensible. Dieu est tellement plus grand que nous. Il y a un gouffre entre Dieu et nous. Souvent, on parle d'intimité, on parle de Jésus-Christ, de proximité. Oui, Dieu se révèle en Jésus-Christ, il est proche, c'est vrai. Mais il y a un gouffre en termes de réflexion, de pensée entre Dieu et moi. Et si je ne comprends pas ça, je risque de contester. Vous savez, il y a des gens qui contestent la Bible. « Ah ouais, mais la Bible, moi je suis d'accord, mais alors là, tel passage, tel livre, tel verset, non, je ne suis pas d'accord. » Eh bien, si je ne comprends pas ce verset d'Ésaïe, ces deux versets d'Ésaïe 55, 8 et 9, je ne vais pas être d'accord. Je vais essayer de chercher une logique. Parfois, on cherche une logique, on est rationnel. On veut chercher une logique à la Bible. Mais Dieu n'agit pas selon la même logique que nous. Ses pensées sont différentes. Moi, je n'aurais pas envoyé Moïse 40 ans dans le désert pour lui apprendre la patience. J'aurais peut-être fait autre chose, j'aurais fait moins longtemps. Voilà. Mais Dieu est différent. Dieu est incompréhensible. Néanmoins, Dieu, on peut le connaître. Vous savez, il suffit de voir la profondeur de l'univers, la manière dont l'univers fonctionne, pour se dire que Dieu est incompréhensible. Et toutes les théories humaines, au fur et à mesure, vont construire là-dessus. Alors au début, on pensait que Dieu était aux cieux. Voilà, pendant des centaines, des milliers d'années, on pensait que Dieu était aux cieux. Alors on a essayé de faire des avions, on est monté dans le ciel, puis on a vu que Dieu n'y était pas. Puis on a vu qu'au-dessus, bah, il y avait quelque chose d'autre. Puis on a vu qu'il y avait des planètes, et on a vu qu'il y avait un système solaire. Puis après des étoiles, puis après des galaxies. Voilà. Et puis il y avait des théories, la théorie de la gravitation. Puis après est arrivée la théorie de la relativité. Et actuellement, on n'en a pas fait le tour. Les théories changent sans arrêt, même la théorie de la relativité d'Einstein est en train d'évoluer par rapport à... Enfin, voilà. Donc Dieu est incompréhensible. Hein. Je prends l'univers, mais on pourrait prendre l'infiniment petit aussi. Et c'est pour ça que Dieu est incompréhensible, mais on peut le connaître. C'est ça l'avantage. Il est incompréhensible, donc ne cherchons pas à tout expliquer, mais on peut le connaître parce qu'il se révèle. Il se révèle à nous, et au travers de ce psaume, Dieu se révèle. Voilà, donc pour bien démarrer l'année... Et c'est mon vœu ce matin, hein. C'est mon vœu pour vous, pour chacun de nous, pour moi, c'est de bien démarrer l'année de manière sereine. Et ce psaume va nous aider à bien démarrer l'année de manière sereine. Alors, trois choses que je voudrais souligner dans ce psaume. La première chose, c'est Dieu. Dieu est souverain et potentiellement, il est souverain de manière écrasante. Quand on lit les premiers versets de ce psaume, on voit la souveraineté de Dieu. Moïse dit « Depuis toujours, tu as été notre refuge. » D'accord ? Tu as été notre refuge. Alors, le mot « refuge » est souvent utilisé dans la Bible, hein, David en parle, mais ici, le mot qui est utilisé, c'est un mot différent qui est très rarement utilisé dans la Bible, deux ou trois fois, qui signifie littéralement, c'est pas un refuge style, vous voyez, une cabane, on fait un peu de randonnée en montagne, on fait le Mont Blanc, puis il y a le refuge, du goûter, etc. Non, c'est pas ça. Ça veut dire littéralement là où Dieu habite. Quand Moïse écrit « Tu as été notre refuge », c'est pas une cabane où je vais poser mon sac à dos, mon sac de couchage, et puis je suis tranquille. Non, c'est là où Dieu habite. C'est la résidence de Dieu. C'est la notion de tabernacle. Tabernacle, c'est la résidence de Dieu, qui, dans le Nouveau Testament, se traduit par « demeurer ». Quand Jésus, en Jean 15, parle de « demeurer en moi », c'est exactement cette notion, c'est équivalent à l'Ancien Testament. C'est là où Dieu est, de demeurer. Et Moïse dit « depuis toujours, tu as été là où nous pouvons demeurer ». Vous voyez ? Et ça traduit vraiment cette intimité que Moïse avait. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait encore le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint. Très rarement, peu de personnes avaient le droit de rentrer dans le lieu très saint, il y avait que le grand prêtre. Mais Moïse voyait Dieu face à face, c'était une espèce d'exception. Et donc, il va utiliser ce mot, « Tu as été notre refuge, là où tu demeures ». Premier point, « Tu demeures », c'est un refuge. Et il faut le comprendre à la lumière de la vie de Moïse. Moïse, en dehors des 40 premières années de sa vie, où il a vécu dans des palais somptueux en Égypte, Moïse a toujours vécu sous des tentes. C'était un nomade. Il avait sa tente dans le désert. Donc quand il parle de refuge, quand il parle d'une tente avec du vent qui hurle dehors, avec des buissons qui sont poussés par le vent, eh bien, il parle de quelque chose de stable. Et il se souvient probablement de cette expérience du désert où il était seul, où il entendait que des bêlements de moutons. Et là, il a compris dans cette expérience que la seule stabilité, c'était l'Éternel lui-même, le Dieu qui ne change pas. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre monde où tout est bouleversé, tout est sens dessus-dessous, finalement, se dire que Dieu est notre refuge, c'est-à-dire nous pouvons avoir un lieu secret. Jésus parlera quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Eh bien, dans le lieu secret, nous pouvons rencontrer ce Dieu-là parce qu'il est notre refuge, c'est celui qui ne change pas. Premier point important à retenir. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est la brièveté de la vie humaine. Au verset 5, il nous disait « Tu mets fin à la vie humaine ». Ben oui, c'est Dieu qui décide. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai de nos jours, parce qu'il y a des lois maintenant, de plus en plus, qui vont arriver, où l'homme peut décider, hein, l'homme pourra décider de la fin de la vie. Voilà, c'est une manière de défier Dieu, une de plus. Voilà. Donc tu mets fin à la vie humaine, verset 5. Verset 3, tu fais retourner les humains à la poussière. Hein, Dieu nous prend de la poussière et nous fait retourner à la poussière. Verset 3, tu dis, fils d'Adam, retournez. Retournez à la poussière. Dieu est souverain, il ordonne, il fait naître, il fait mourir. 1000 ans sont comme un jour à tes yeux. Hein, l'apôtre Pierre reprendra ça dans sa deuxième lettre. Hein, 1000 ans, vous voyez, 1000 ans, c'est rien pour Dieu. Ça montre l'immensité, la souveraineté de Dieu. Et la petitesse de la vie humaine. Il y a des gens qui se prennent pour des rois, qui veulent construire des empires, qui se font des statues, qui pensent durer pour l'éternité. Les Égyptiens s'embaumaient parce qu'ils se disaient « on va passer dans la vie éternelle ». Vous voyez, il y a cette notion de vouloir défier Dieu, de ne pas accepter que la vie humaine est brève. Elle passe comme un souffle. L'Ecclésiaste dira « c'est quoi l'homme ? C'est une vapeur qui paraît, qui disparaît ». Même quand on est jeune, on voit la vie longue, infinie, et puis quand les années commencent à arriver, ça s'accélère, hein, c'est comme ça. Voilà, quand nos parents nous disaient ça, on rigolait, et puis bon, maintenant on y est. Enfin bon, les plus anciens savent de quoi je parle. Donc la brièveté de la vie humaine, c'est pas désespérant de faire ça, parce que finalement la brièveté de la vie humaine, comme disait Guy tout à l'heure, nous rapproche de l'éternité, de sa présence. Donc c'est pas voilà, quand on est à Jésus-Christ, on se réjouit plutôt. Comme se réjouissait l'apôtre Paul, il disait moi j'ai qu'un désir, c'est de partir. Hein, je suis tiraillé parce que j'aimerais bien partir, retrouver le Seigneur. Puis de l'autre côté, j'ai besoin d'être là pour vous aussi. Voilà, parce qu'on a les frères et sœurs, on a une mission encore à accomplir. Voilà, donc la brièveté de la vie humaine, c'est bien de s'en souvenir. On fait un break, hein, n'oubliez pas, on est en transition entre 2 ans. On fait un break, on réfléchit. La vie humaine, Dieu est Dieu, il est un refuge, la vie humaine est brève. Et puis, il ne faut pas oublier cet aspect de Dieu, parce qu'à force de dire « Dieu est mon pote, Jésus est mon pote, etc., je l'ai choisi », oui, c'est vrai, mais Dieu est un Dieu saint, et Dieu est en colère, parce que quand il voit la rébellion, d'accord, de l'homme, regardez au verset 7, hein, « Ta colère nous balaye, elle nous terrifie, elle nous pousse, verset 11, à reconnaître ton autorité. Hein. » Dans la colombe, il est dit « selon la crainte qui t'est due ». Dieu est en colère, mais pourquoi il est en colère ? Parce qu'il aimerait que l'être humain revienne à lui, non pas pour être humilié, mais pour reconnaître respectueusement son autorité. En fait, Dieu se met en colère, hein, et on le voit dans l'Ancien Testament, dans la pérégrination du peuple d'Israël, il se met en colère pour faire comprendre à l'homme que l'homme est allé trop loin, qu'il doit revenir dans une crainte respectueuse, une soumission et reconnaître l'autorité de Dieu. Vous comprenez cette notion ? Ce n'est pas la colère punitive comme moi, père, à un moment donné, j'éclate de colère, je vais frapper mon fils, ma fille, etc. Je vais me défouler sur lui. Enfin, j'espère que vous ne le faites pas. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps, exaspéré, mais pas très souvent. Hein. Je ne sais pas si mes enfants écoutent ce message, mais de temps en temps, bon, voilà, on est humain, quoi. On est exaspéré, il y a une claque qui part. Voilà, mais Dieu, il ne fait pas ça dans cette optique. Il le fait pour qu'on reconnaisse son autorité. Et oui, Moïse, encore une fois, quand il écrit ça, il a peut-être en tête l'épisode de Kadesh Barnéa. Vous savez, là où il a frappé le rocher de colère, hein, ça lui a coûté l'entrée en Canaan. Parce qu'à un moment donné, il était tellement exaspéré, tac, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment un psaume d'expérience. Il y a plein de petites nuances au cours de ce psaume qui font appel aux pérégrinations de Moïse. Voilà, donc Dieu est Dieu. Si on veut résumer, hein, Dieu est éternel, il est le créateur et le souverain sur la vie et la mort. Il est en colère parce que l'homme est rebelle, mais il n'a de cesse que de nous pousser à revenir à lui et à reconnaître son autorité. C'est un petit résumé sur ce premier point à connaître, Dieu est Dieu. Voilà. Deuxième point, je vais aller vite parce que je vois qu'il y en a qui baillent. Notre vie. Alors si vous vous faites encore des illusions sur vous-même, eh bien notre vie, elle n'est pas grand-chose. Verset 8, ce que nous dit Moïse, c'est que notre vie est pleine de fautes devant lui. Nous sommes constamment dans le péché, nous devons revenir à lui dans la repentance et les confessions. Verset 9, notre vie est un soupir. D'autres versions disent un murmure. Au verset 10, elle passe vite, j'en ai déjà parlé. Vous voyez, David disait en 1 Chronique 29,15, ça c'est repris aussi dans l'Épître aux Hébreux, « Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre, comme l'étaient nos pères. » D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas arrivés à la maison, on est en chemin, en pérégrination, la vie est un marathon, d'accord ? Un long chemin, semé d'embûches, mais notre patrie, elle est céleste. Et donc notre vie, verset 10, elle n'est que peine et malheur. Vous voyez, je pense qu'il faut être assez âgé pour dire ça. Quand on est plus jeune, alors certains jeunes ont connu des difficultés, hein. Je pense ici, pas très loin d'ici, on a le centre Léon Bérard, hein, le plus gros centre anticancéreux français, d'accord, où il y a des dizaines, des centaines d'enfants leucémiques de 2, 3, 4 ans qui se meurent. Donc eux peuvent dire notre vie n'est que peine et malheur. Quand on a connu des chambres stériles, eh bien, on peut dire ça. Mais la majorité d'entre nous, Dieu est bon, on n'a pas eu une vie comme ça. Mais la vie n'est que peine et malheur. Elle est brève, fragile, elle est difficile. Mais néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que cette vie, toute fragile qu'elle est, elle compte pour Dieu. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. C'est un verset de la Bible qui dit ça, je ne me souviens plus où c'est. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Vous voyez, c'est Dieu et Dieu, les cieux, autant les cieux sont élevés, mes pensées ne sont pas vos pensées, mais Dieu vient vers nous et notre vie est précieuse parce que Dieu fait avancer sur cette terre le royaume, son royaume, il le fait avancer au travers de nos vies. C'est-à-dire que nous sommes des participants de l'avancée de son royaume. Est-ce que vous prenez conscience que chaque personne dans cette salle qui appartient à Jésus-Christ, qui est scellé du Saint-Esprit, chacune de ces personnes, chacun de vous qui êtes scellé du Saint-Esprit dans cette salle, vous êtes précieux aux yeux de Dieu parce que Dieu fait avancer son royaume au travers de votre vie. Peut-être vous vous dites, mais moi, ma vie est insignifiante, je fais que ça, je suis dans telle galère, etc. Mais Dieu fait avancer le royaume d'une manière invisible au travers de votre vie. C'est important de se poser la question et d'y réfléchir ce matin. Alors vous voyez, si on faisait un tableau résumé entre Dieu et l'humain, on pourrait mettre plein de critères. Je vous en ai mis quelques-uns. Dieu est éternel, nous sommes transitoires, Dieu est parfait, nous sommes pécheurs, Dieu sait tout et est omniprésent, omniscient, omnipotent. Nous, on est limités, Dieu est miséricordieux, nous, on est durs de cœur et de nuque, hein, je le dis pour ceux qui écoutent le message en audio. Dieu est compatissant, alors que nous, nous sommes rebelles. Et on pourrait rajouter des adjectifs à cette liste. Voilà. Donc, on a vu qui était Dieu, on a vu qui était l'être humain. Ce constat, alors, soit nous désespère, nous accable, soit devrait nous pousser à genoux devant Dieu avec humilité. Je vous encourage, peut-être dans l'intimité de votre chambre ce soir, à tomber à genoux devant Dieu avec humilité pour lui formuler un certain nombre de requêtes dans lesquelles Moïse va nous conduire maintenant. Il va nous conduire vers un certain nombre de requêtes et l'homme et la femme qui veut se montrer sage, eh bien, va essayer de comprendre ces requêtes. Alors, je vais terminer avec 6 requêtes, d'accord ? 6 requêtes que Moïse va nous encourager à dire. Nous pouvons dire les 6. À la fin, je vous inviterai peut-être à les regarder, donc je ferai une diapo résumée, d'accord ? Et puis, je vous inviterai à choisir une requête, celle qui est la plus prioritaire pour vous, et vous la garderez pour la journée et pour peut-être le reste de la semaine. La première requête, on la trouve au verset 12. Qu'est-ce que demande Moïse ? Il va demander de nous aider à bien compter nos jours. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Ça, c'est selon leur version, selon les versions. Alors nous aurons un cœur sage. Si on comprend bien que nos jours sont comptés, sont limités, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors nous aurons un cœur sage. Et la Bible nous dit par ailleurs, dans un psaume, dans les proverbes, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc c'est tout ce qu'on a dit. Voyez, si on veut être sage, mener notre vie de manière sage, il faut craindre l'Éternel, mais pas la crainte, pas une peur, mais une crainte respectueuse. Si je comprends que mes jours sont comptés, alors je vais mettre un point d'honneur à vivre chacune de mes journées pour Dieu. Je vais me lever le matin, je vais prier, « Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. Seigneur, cette journée soit à ta gloire. Seigneur, prépare cette journée. » Moi, souvent, je prie comme ça, « Seigneur, prépare cette journée, prépare des rendez-vous divins. » Je lui demande souvent, « Seigneur, donne-moi deux ou trois personnes à encourager. Mets sur mon chemin des personnes qui ont besoin de recevoir quelque chose. » Et vous savez, Dieu, il répond, c'est incroyable. Vous lui demandez trois, il vous donne trois. Il est capable de tout. On a vu, il est Dieu. D'accord ? Donc, si je comprends que tous mes jours sont comptés, alors je vais vivre pour lui. Première requête. Deuxième requête, c'est le verset 14. Le verset 14 nous dit « Comble-nous chaque matin de ta hesed ». Je vais expliquer ce mot. J'ai pris le mot hébreu volontairement. « Comble-nous chaque matin ». Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a des néons, les gens vivent 24-24, mais à l'époque, la nuit, on ne pouvait rien faire, il n'y avait pas de lumière, il y avait que des bougies peut-être qui brûlaient, mais dans les rues, ce n'était pas éclairé. Et peut-être que Moïse, quand il écrit ça, il fait référence à cet état de l'être humain. L'état de l'être humain est sombre à l'intérieur, d'accord ? C'est un peu la nuit. Et fais-moi dès le matin, enfin comble-nous de ton amour dès le matin, c'est la nuit, le jour qui se lève. Vous savez, les gardes aussi, dans les psaumes, David le disait, les gardes, quand ils voient pointer le soleil, ça y est, c'est le jour qui arrive, du coup, on ne risque pas d'être surpris dans l'obscurité. Eh bien, c'est la référence à la nuit, finalement, qui se termine. Et on pourrait assimiler notre course terrestre à la nuit. C'est difficile, les forces du mal qui sont là, mais la nuit, là, il y a le jour qui vient, c'est la patrie céleste qui s'approche. On ne sait pas ce que Moïse avait en tête, mais il y a peut-être quelque chose de ce genre. Alors, quand Moïse dit « Comble-nous chaque matin de ta hesed », ce mot « hesed », c'est un mot qui est très souvent utilisé dans l'Ancien Testament, 240 fois, là, je fais comme David, je vous donne des statistiques, 241 fois, dont 125 fois que dans les psaumes. Vous savez, il y a un psaume, le psaume 136 que vous connaissez, qui commence par « Louer l'Éternel car qui est bon, car sa bienveillance ou sa bonté durera toujours ». Vous savez, puis à chaque fois, il y a un couplet, il y a une phrase, puis après il y a le refrain « Car sa bienveillance durera toujours, car sa bienveillance durera toujours ». C'est le mot « Hesed » qui est utilisé. Et ce mot « Hesed », c'est un des termes hébreux qui décrit le mieux le caractère de Dieu. Qui veut dire, en fait, il est traduit selon les traducteurs, selon les versions, ça veut dire bonté, bienveillance, amour tendre, miséricorde, faveur, bienveillance, compassion, ça veut dire tout ça. C'est vraiment le caractère de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mot propre à la Bible, c'est un terme qui, à l'époque de Moïse, dans l'Ancien Testament, manifestait en quelque sorte l'engagement d'un souverain envers son peuple. Vous savez que Dieu était en alliance avec son peuple. Il y avait d'une part une soumission volontaire du peuple qui s'engageait à se soumettre et à lui obéir. Et de l'autre côté, le Dieu souverain, il aime son peuple de sa hesed, qui peut être compris comme une fidélité par alliance. Les juifs messianiques traduisent ça par faithful covenant. C'est-à-dire c'est l'alliance fidèle d'un souverain vis-à-vis de son peuple. Voilà. Et ces nuances de la hesed vont même plus loin, parce que malgré la rébellion du peuple, vous voyez, Dieu ne rompt pas son alliance. Il maintient cette fidélité d'alliance. Très souvent, Dieu fait alliance unilatéralement. Donc, hesed, c'est plein de choses. C'est la miséricorde de Dieu, qui exprime la compassion vers son peuple. C'est un amour qui se manifeste par des actes de pardon, par des actes de grâce. C'est le mot grâce aussi, d'accord ? La grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu accorde à son peuple, malgré le péché, malgré les désobéissances, malgré les chutes permanentes, Dieu accorde une faveur imméritée. Et on vit aujourd'hui sous la grâce de Dieu. Dieu ne nous punit pas selon nos fautes. Hein. Guy a cité le psaume 103, c'est développé très largement dans le psaume 103. Ça peut être traduit aussi par amour fidèle, d'accord ? C'est l'alliance fidèle qui dure dans le temps, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas d'une contrepartie. C'est le mot bonté aussi, une bienveillance, une générosité, des actions concrètes envers les plus faibles, envers les plus démunis. La faveur, la bienveillance, la compassion. Vous voyez, donc c'est tout ça. Et qu'est-ce que Moïse demande, finalement ? Eh bien, il demande, dès le matin, de nous combler de tout ça. Seigneur, donne-nous tout ça dès le matin. Et peut-être, Moïse fait référence à quelque chose d'autre aussi. Qu'est-ce que Moïse et le peuple recevaient tous les matins ? Eh oui, ils recevaient la manne, la nourriture physique. D'accord ? Donc vous voyez, quand Moïse écrit ça, il pense à sa pérégrination. Il est dedans, il a envie de nous transmettre tout son parcours de vie là. Et si Dieu répond à cette requête, comble-nous chaque matin de sa aide, regardez la deuxième partie du verset, alors nous nous réjouirons toute la journée, toute notre vie. Alors est-ce que vous voulez vous réjouir toutes les années, toute la journée ? Laissons-nous remplir chaque matin de sa aide. Levons-nous le matin, demandons à Dieu, comble-nous de ta aide ce matin. Utilisez le mot qui vous va le mieux, bienveillance, bonté, tout ce que vous voulez. Moi, je vois dans ma propre vie la différence entre le jour où je prends un temps avec Dieu et le jour où je ne le prends pas, où je le prends très peu, où je le bâcle, etc. Je suis différent dans la journée face aux contrariétés, aux circonstances. Donc voilà, c'est une belle requête. Je vous en donne 6, vous allez voir, elles sont toutes belles, il faudra en choisir une. Vous choisirez toutes celles que vous voulez, si vous voulez. Troisième requête, je vais avancer parce que le temps passe. Ça, c'est, j'aime beaucoup ce verset. Je partageais ça avec des amis, hein, on était ensemble pour le réveillon du Nouvel An. « Donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous avons eu de malheur. » Moïse dira, « Car longtemps tu nous as accablés. » Je vais vous inviter à prendre dans le livre de Joël, au chapitre 3, on ne va pas souvent dans le livre de Joël, mais le livre de Joël, c'est un des petits prophètes de l'Ancien Testament. Donc c'est après Ézéchiel, Daniel, dans... je ne sais même plus où il est, Joël. Nahum, Sophonie, il faut juste... Bon. c'est deux pages, Joël. On va y aller, j'ai noté la référence. Ah si, Joël. Alors si je vous dis entre quoi et quoi, c'est après Osée et avant Amos, voilà. Mais de temps en temps, il faut aller. Alors bon, le livre de Joël parle d'une invasion de sauterelles. Vous savez, quand les sauterelles passent sur un champ, il ne reste plus rien. C'est le no man's land. Regardez ce que dit Joël au verset 3 et au verset chapitre 3, verset 25. J'ai dû faire une erreur. J'ai perdu la référence. Je me suis trompé dans la référence, là. Joël 3, 25. Bon, c'est un peu la débandade. Alors, c'est 2, 25. Ah, heureusement qu'il y en a qui suivent. Merci. 2, 25, est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est 2, 25. Joël dit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Voilà, c'est-à-dire que Dieu, en fait, dans une autre version, il est dit, « Je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. » D'accord ? En fait, parfois, Dieu est obligé de nous châtier, il est obligé de nous redresser, et il va nous enlever des choses. Mais il est louable de demander à Dieu, si on revient à lui dans la repentance, il est louable de demander à Dieu, « Seigneur, redonne-nous autant d'années de joie que tu nous as donné du malheur. » Et chacun de nous, on a eu des malheurs, des difficultés. C'est louable. Seigneur, redonne-moi. Tu vois que j'ai souffert pour telle et telle raison. Seigneur, redonne-moi la joie. Redonne-moi autant d'années de joie que tu m'as donné du malheur, à condition de revenir à lui. D'accord ? Dans le Ésaïe 55, qu'on a lu tout à l'heure, Dieu nous dit « Revenez à l'Éternel, car il ne se lasse pas de pardonner et de restaurer. » Voilà, même si j'ai péché, je peux revenir à Dieu, je peux lui demander, Seigneur, redonne-moi tout ça. Et Dieu le fait. Regardez Job, Dieu lui avait tout enlevé, enfin il a permis que tout lui soit enlevé, il lui a redonné, mais même encore plus. Voilà, donc c'est une belle prière, une belle requête. Redonne-nous autant d'années de joie Seigneur, restaure la balance. La balance est en ma défaveur en ce moment. Restaure cette balance. Redonne-moi autant d'années de joie que tu m'as humilié. Quatrième requête, c'est au verset 16. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Alors, que nous puissions te voir agir, c'est littéralement, Seigneur, ouvre mes yeux cette année pour que je comprenne ce que tu es en train de faire dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je comprenne ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je suis complètement à la dérive, je ne comprends plus rien, mais ouvre mes yeux. Et parfois, vous savez, les choses sont tout à fait relatives. Vous connaissez peut-être cette histoire du vieux sage chinois là, qui vivait dans les steppes du nord de la Chine avec son fils. Ils avaient en tout et pour tout un cheval. Et un jour, le cheval disparaît. Tristesse dans la famille. Puis les amis viennent. Oh, quel malheur, quel malheur. Et le vieux sage dit, on verra, on verra. Quelques jours plus tard, le cheval revient avec une superbe jument. Tout le monde se réjouit. Les amis viennent. Ah, c'est super ce qui t'est arrivé, bravo. Et le vieux sage, quel malheur. Le vieux sage dit, on verra, on verra. Et puis, quelques jours plus tard, le jeune fils monte la jument, elle est un peu indocile, et il tombe, il se casse la jambe. Catastrophe, les amis arrivent, quel malheur, quel malheur. Et le vieux sage qui dit, on verra, on verra. Et puis, peu de temps après, une guerre éclate avec le voisin. Tous les hommes sont mobilisés, les jeunes partent au front, puis c'est une guerre sanglante, il y en a plein qui meurent, mais le fils, il a la jambe cassée, donc il n'est pas mobilisé. Voilà. Alors les amis viennent, ils lui disent, oh, t'as de la chance, t'as ton fils, nous on a perdu les nôtres et tout ça. Et le vieux sage, il dit, on verra, on verra. Bon, je vais arrêter là parce que le temps passe, mais vous comprenez le principe. On ne sait pas ce qui nous arrive. Hein ? Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse discerner ta main dans mes circonstances. Et la deuxième facette de cette requête, c'est que nos descendants découvrent ta grandeur. Alors, ce que j'aimerais, c'est vous inviter maintenant, on va passer 30 secondes, on va fermer les yeux, et vous allez penser à un de vos descendants qui ne connaît pas le Seigneur. Si vous n'avez pas de descendant, vous pensez à un de vos amis ou un oncle, une tante, une personne de votre famille qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que dans cette requête, c'est vraiment la demande, c'est que nos descendants découvrent ta grandeur, qu'ils comprennent qui tu es, que tu comprennes que tu es Dieu. Voilà. On ferme nos yeux 30 secondes, vous pensez à un ou deux, trois descendants qui ne connaissent pas le Seigneur et dans la prière, dans le silence de votre cœur, on va amener ce descendant au Seigneur, on va lui demander, on va demander la grâce de Dieu pour qu'il touche le cœur de cette personne qui ne le connaît pas encore. Voilà, soyez sûr que Dieu a entendu cette prière et qu'on puisse continuer à prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour que nos descendants découvrent ta grandeur, te voir agir et voilà, discerner qui est Dieu. Cinquième requête, on a presque fini, c'est accorde-nous ta douceur ou selon les versions, ta tendresse. Nous avons chanté en introduction, tu attends de nous révéler ta tendresse. Et littéralement, ce mot signifie plein de choses. Non seulement la tendresse, la douceur, mais la beauté, la splendeur, le délice, la grâce. Donc, la requête de Moïse, c'est que Dieu nous accorde tout ça, d'accord, et que nous puissions ressentir, dans un monde qui est dur, qui est impitoyable, cruel, nous avons besoin de nous laisser envelopper par les bras du Seigneur. recevoir un petit zeste de douceur dans un monde de brut. Alors je vais vous inviter à vous lever, d'accord ? Tout le monde va se lever, on ne va pas chanter, hein, c'est pas automatique. On va se lever, d'accord ? Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez, par deux, alors si jamais il y a des nombres impairs, prenez-vous à trois, vous allez, par deux, on va se faire un grand hug. Vous savez ce que c'est un hug ? D'accord ? On va se faire un grand hug, d'accord ? Alors mettez des masques si vous êtes malade. On va se faire un grand hug et on va souhaiter à l'autre que le Seigneur, on va lui souhaiter une bénédiction, on va lui dire que le Seigneur t'accorde sa douceur cette année. D'accord ? Alors, un grand hug. Voilà. Ah ben on peut continuer. Que le Seigneur bénisse votre vie. Voilà, ben on n'en finit plus de se huguer. Alors on pourra le faire tout à l'heure, mais voilà, ça détend un peu, ça permet de fixer. Mais c'est important. Moïse demande qu'il nous accorde sa douceur parce que c'était dur pour lui dans le désert. C'était très dur, il dormait sous des tentes, il y avait du vent, il y avait des scorpions, il mourait de soif, de faim. Il a besoin de demander, Seigneur, accorde-nous ta douceur. Vous savez, de temps en temps, la vie est dure, on a besoin d'avoir cette douceur du Seigneur, et le Seigneur peut nous envoyer, hein, par divers moyens, il peut nous envoyer un peu de, tu vois, un peu de câlin, un peu de... C'est marrant, les Canadiens, quand ils finissent leur salutation, nous on met cordialement, les Canadiens, ils mettent câlin. C'est vrai, j'ai reçu, hein, je travaille avec un ami au Canada, première fois il me met câlin, je me dis ouf. Mais il a raison, parce qu'on a besoin d'avoir la douceur du Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous fasse ressentir, on a besoin, dans un monde dur, on a besoin de ressentir son amour. Et enfin, dernière requête, verset 17, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être la vie te semble inutile, elle te semble futile. Peut-être tu te dis, je ne sers à rien. Alors prie dans ce sens, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Parce que c'est Dieu, nous dit Philippiens, qui met en nous le vouloir et le faire, et nous aide à faire fructifier notre salut. Hein, n'oublions pas que c'est si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça c'est un psaume, un cantique des degrés. D'accord ? C'est Dieu qui construit au travers de nous son royaume. Dieu construit au travers de nous son royaume. Et si tu te sens inutile ce matin, ben fais cette prière. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis ce que tu me donnes à faire. Je ne suis pas inutile devant toi. Je suis utile à ton royaume. Hein, vous savez, le jeu de mots inutile, utile, c'est tout le sens du livre de Philémon. Hein, Philémon, ça veut dire affectionné, d'accord ? Mais Onésime, l'esclave, hein, ça veut dire utile. Et Paul écrit à son ami Philémon, Onésime, qui un jour t'était inutile, est devenu utile parce qu'il a été utile à mon ministère. Donc, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Seigneur, fais fructifier ce que tu m'as donné à faire. Même si c'est tout petit, même si ça allait donner un coup de main, aller faire le ménage ou quoi, eh bien, c'est utile pour le royaume de Dieu. Voilà, je vous mets en résumé les... ça ne marche plus. Tu peux avancer, Tim, là, il y a peut-être deux... avancer une ou deux fois, parce que le truc est... Voilà. C'est avoir le courage, en fait, de persévérer dans ce que Dieu nous demande à faire. Voilà, donc 6 requêtes, vous pouvez faire une photo si vous voulez, 6 requêtes, il y en a peut-être une qui vous parle un peu plus que l'autre. Donc, je vous inviterai à prendre cette requête, vous rentrez chez vous et vous priez cette requête, relisez ce psaume, d'accord ? Et dites-vous, quelle est la requête, finalement, qui me parle le plus ? Avance encore une fois, et puis je pense que ça sera fini. Quelle est la requête qui me parle le plus ? Voilà. Donc Guy nous a exhorté tout à l'heure, hein, dans Philippiens 3, à rendre grâce et avancer avec espérance. Bien, on a des billes au travers de ce que Moïse nous a dit pour avancer en 2025, nous avancer avec espérance. Si vous voulez faire les 6 requêtes, vous avez le droit. Hein, ce n'est pas limité, d'accord ? Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cette année, qu'il fasse fructifier tous vos dons, qu'il vous rende utile pour l'avancée de son royaume. Merci.
Merci Seigneur, merci Pierre.